Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'Allemagne qui reconfine, les salles de spectacle qui restent closes, les restaurateurs pas assurés d'ouvrir le 20 janvier, une campagne de vaccination qui va prendre du temps. Les économies sont plongées dans l'incertitude face à la déroute de secteurs entiers. Les États continuent de mettre la main à la poche pour encaisser le choc. Et déjà, un débat s'impose dans la classe politique. Arnaud Montebourg, l'ancien patron de Bercy, propose l'annulation, tout simplement, de la dette Covid, des propos repris par une partie de la gauche, dont Jean-Luc Mélenchon ce week-end, qui réclame une concertation européenne pour tout simplement effacer l'ardoise. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, porte lui naturellement un tout autre discours, n'imagine un autre scénario que le remboursement de la dette et veut même remettre la réforme des retraites à l'ordre du jour. Les Français, eux, sont 86% à penser qu'au final, c'est eux qu'on mettra à contribution. Dette Covid, on efface tout? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Citons ce soir votre dernier ouvrage collectif, La dette potion magique ou mortelle. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et sociales. Vous êtes également chroniqueuse à France Info. Avec nous ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Le dernier baromètre IFOP constate une baisse de la popularité de Jean Castex et Emmanuel Macron. Nous verrons si c'est lié aux questions économiques et budgétaires. Mathieu Plane, vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais me tourner vers vous, Fanny Guinochet. C'est quand même un peu la douche froide pour les restaurateurs ce matin. On leur avait dit prochain bilan d'étape le 20 janvier. Ça paraissait déjà très loin. Ce matin, Bruno Le Maire leur dit « Je ne peux pas dire avec certitude que nous rouvrirons les bars, les restaurants le 20 janvier. »
Oui, Bruno Le Maire était sur France Info ce matin et effectivement, on lui a posé la question et il a répondu qu'il y avait un grand niveau d'incertitude. Donc c'est effectivement la douche froide pour ces professionnels qui n'en peuvent plus financièrement. Alors selon les syndicats professionnels des restaurateurs, des cafetiers, des hôteliers, il y aurait un risque jusqu'à un tiers de la profession qui mettrait la clé sous la porte après cette crise. Bruno Le Maire n'a pas voulu confirmer d'ailleurs ce chiffre, mais c'est vrai que les dégâts sont considérables et malgré les aides de l'État qui se sont accumulées, il n'en voit pas le bout du tunnel. Et parfois, il y a la question économique, mais pas que. C'est ce que l'on voit aujourd'hui, ils ont défilé dans la en disant « laissez-nous travailler » parce que...
C'est curieux comme mot d'ordre, hein.
C'est incroyable.
Laissez-nous rouvrir.
D'habitude, c'est le contraire. Faites en sorte qu'on puisse reprendre notre activité parce qu'un certain nombre se désespère, tout simplement. Il y a de la lassitude. Certains pensent même à faire autre chose. D'ailleurs, Bruno Le Maire, ce matin, a glissé un moment sur l'idée d'une reconversion. Accompagner ces restaurateurs dans les reconversions éventuelles. Mais faire quoi? Et puis, on le sait, aujourd'hui, c'est du côté des clients, c'est terrible parce que ça fait partie de notre art de vivre. Le petit café du matin, qu'on va prendre sur la place du village.
C'est un vieux souvenir, ça, Fanny.
C'est un vieux souvenir, ou en tout cas, dans le quartier. Ouais. Eh bien, ça manque, c'est du lien social en moins. Vous n'avez qu'à voir, d'ailleurs, vous avez certains, le dimanche, dans certains endroits, vous avez des cafetiers qui ont le droit donc, de faire ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire de vendre leur café. Ils le font, et ils le font. Je ne pense pas que ça leur rapporte grand-chose, mais ils sont contents de le faire pour voir leurs clients, et les clients sont là, se massent dans le froid pour aller acheter un café. Donc on voit vraiment que c'est tout un pan de notre économie qui risque aujourd'hui de s'effondrer.
On voit bien, Bruno Jeudy, toute la difficulté de la gestion de crise par l'exécutif. Ils avaient tenté de donner des perspectives, des échéances. On avait quelques échéances comme ça qui s'étaient dessinées, notamment sur évidemment les fêtes et puis celle du 20 janvier avec la réouverture des bars, des restaurants. On a vu que la question des salles de spectacle, des théâtres, l'ouverture a dû être reportée. C'est toute la difficulté de cet exécutif qui veut donner des perspectives aux Français, mais qui n'arrive pas à tenir au final avec une épidémie qui fait des siennes et des chiffres qui restent mauvais.
Oui, c'est la quadrature du cercle pour l'exécutif. C'est vrai que s'il ne donne pas de date à des professionnels qui attendent désespérément de pouvoir retravailler. Rouvrez-nous, disent-ils aujourd'hui. Si on ne leur donne pas de date, eh bien, c'est le désespoir, c'est s'enfoncer encore un peu plus dans la crise, et pas seulement la crise, mais aussi le désespoir psychologique, la détresse pour des tas d'indépendants, parce qu'il faut le redire, pour les indépendants, c'est forcément plus compliqué que pour les salariés qui voient leur salaire pris quand même tout ou partie par les autorités, et même si les indépendants sont aussi soutenus. Donc, il y a cette difficulté. Et on l'a vu, Emmanuel Macron avait plutôt bien géré sa dernière intervention, où il avait donné une grille de lecture, des perspectives avec des dates, un déconfinement en quelque sorte avec différents paliers. On devait avoir la réouverture des lieux culturels pour le 15 décembre. On avait la possibilité pour les stations de ski de rouvrir début janvier, le 20 janvier, voir si on pouvait rouvrir les restaurants. Pas de date pour les bars, et puis les universités. Tout ça était plutôt bien, avait été bien compris, même si c'est toujours très difficile. Et puis patatras, la crise sanitaire finalement fait un mauvais tour une fois de plus au gouvernement. Alors c'est pas seulement la France, hein, c'est aussi toute l'Europe, il faut le redire. L'Allemagne vient de prendre des décisions extrêmement dures ce week-end avec la fermeture des commerces non essentiels. Eux aussi vivent la même épreuve. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En quelque sorte, le gouvernement se serait mis un peu la corde autour du cou avec ces dates, le 15 décembre, le 7 janvier, le 20 janvier, peut-être un peu plus tard pour l'université. Donc c'est une gestion par tâtonnement, mais encore une fois, que peuvent-ils faire d'autre? Alors je pense quand même qu'il y a un petit danger à fixer peut-être des dates sur la durée, parce que au fond, il n'y en avait pas, souvenez-vous, au premier déconfinement. Là, il y en a cette fois-ci. Et on voit que c'est pas plus simple. Donc, c'est créé peut-être ce yo-yo émotionnel qui fait que c'est difficile pour les professionnels.
C'est vrai que ça crée de la déception. Vous avez raison de le souligner. Et là, je me tourne vers le prévisionniste. Mathieu Plane, en fait, vous êtes au chômage technique. Vous, comment est-ce qu'on peut, dans un moment comme celui-ci, et on va beaucoup parler naturellement d'économie ce soir, comment est-ce qu'on peut faire des prévisions? Comment est-ce qu'on peut, quand Bruno Jeudy rappelait à l'instant que l'Allemagne vient de reconfiner, ça n'était pas prévu, il y a encore une semaine, je rajoute pour le débat, en Suisse, où on considérait que les choses étaient plutôt pas mal gérées, le patron de l'hôpital de Zurich demande la mise à l'arrêt du pays pour limiter l'épidémie. Est-ce qu'on peut encore prévoir l'épidémie, on a compris que non, mais l'économie, pardon de le dire aussi de manière aussi générale que ça, mais quels sont vos outils?
Oui, alors les outils, il a fallu s'adapter, bien sûr, à ce nouveau contexte. Il ne faut pas s'arrêter de prévoir. Hein. Vraiment, je le répète, ça nous permet d'avoir quand même un cadre d'analyse, y compris pour la décision de politique publique. C'est essayer de remettre un peu de visibilité dans ce brouillard, quelque part, même si nos prévisions peuvent être révisées très vite, hein, on le voit bien, parce que l'économie, en fait, elle est régie par les mesures sanitaires aujourd'hui. Et donc, c'est ces fameuses qu'on appelle mesures prophylactiques qui vont déterminer les évolutions économiques. Et au-delà même des évolutions économiques globales, vous avez toutes les évolutions sectorielles. On voit que chaque secteur évolue différemment. On voit que des secteurs s'en sortent plutôt bien et d'autres qui sont très touchés, et ça va durer. Et donc, on voit que le calendrier sanitaire va conduire aussi un calendrier économique et aussi des mesures budgétaires. On voit qu'on a des nouvelles mesures budgétaires. Donc, on a énormément d'interactions qui se créent. On voit qu'on est dans une période d'incertitude forte, que le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, a essayé de redonner un peu de visibilité avec un nouveau calendrier, mais que l'épidémie, on voit bien qu'elle n'évolue pas forcément dans ce calendrier-là et qu'il y a une interaction avec le calendrier sanitaire. Et il y a des choix politiques qui sont faits. Le risque aujourd'hui, c'est d'avoir des secteurs entiers qui sont sacrifiés. Donc, ça veut dire comment on accompagne ces secteurs pour éviter qu'ils mettent la clé sous la porte et qu'ils ne soient pas les sacrifiés de l'histoire.
Et on reparle avec vous, Philippe de Sertine, pour prendre un exemple, mais qui illustre bien la situation dans laquelle on se trouve. L'exemple des restaurateurs, donc eux, ils n'ont pas de visibilité sur ce qui peut se passer après le 20 janvier. Ils commencent à dire, très bien, on nous a fait des prêts garantis par l'État, mais comment est-ce qu'on va faire pour rembourser? Et on entend cette petite musique donc de la reconversion, mais aussi de, est-ce qu'on va effacer aussi la dette à un moment donné des restaurateurs?
Oui, on est dans une période tellement incroyable d'un point de vue économique que ce secteur comme d'autres. Hein, ouais. Et c'est vrai que celui de la culture, celui qu'on évoquait tout à l'heure, les sports d'hiver, mais même aujourd'hui, les aéroports. Les aéroports, c'est énorme en termes de signification d'emploi. Tous ces secteurs sont toujours à l'arrêt complet. Et vous avez ce sentiment d'injustice. Alors c'est compliqué, ouais. Comme on le dit à l'instant, c'est injuste, injuste parce que le gouvernement veut sacrifier la restauration. Non, faut être très clair, quoi. La restauration, c'est pas négligeable hein, dans le PIB du pays. Hein. Si vous regardez le chiffre d'affaires de la restauration en France, c'est aux alentours de 90 milliards tout compris. C'est la même chose que l'aéronautique, mais en termes d'emploi, c'est deux, trois fois les emplois de l'automobile ou de l'aéronautique. C'est-à-dire, c'est vraiment un secteur. Très clairement, le ministre de l'économie doit rêver de pouvoir relancer la restauration française, non seulement parce que c'est notre patrimoine, mais parce qu'effectivement, ce secteur-là qui s'effondre, c'est une catastrophe. Alors la question, effectivement, c'est de dire, on va faire comment pour en sortir ? On va faire comment pour relancer ? On n'a pas voulu. Vous voyez, on aurait pu peut-être envisager, au mois de mars, ça avait été des choses qu'on avait mis sur la table, dire on va mettre des tickets. Et comme, comme en temps de guerre, quoi, vous allez avoir des tickets d'approvisionnement, des tickets pour, en disant bah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'économie n'existe plus, elle est arrêtée, puisque de toute façon, on a ordonné qu'elle s'arrête. Alors, on a une sorte de mode de fonctionnement intermédiaire, artificiel. Le problème, et heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on disait, si on repart puis qu'on doit se réarrêter après, comment ça va faire, quoi ? Ça va être quelque chose d'épouvantable. Donc, on a dit non, on reste avec les modes de fonctionnement traditionnels, on met de l'argent, on crée de la dette. La dette, on sait ce que c'est. Mais vous voyez, si quand vous avez quelqu'un qui dit qu'il faut annuler la dette, les tickets, on peut les annuler. Mais la dette, non. Le principe, justement, c'est qu'on a voulu rester dans quelque chose de cohérent. Mais là, la restauration, elle dit, mais comment on va faire avec le trou ?
Parce que les prêts garantis par l'État, on leur dit, c'est des aides. Mais ils disent, non, ce n'est pas des aides. C'est qu'ils anticipent déjà sur la réouverture et sur le moment où on va leur dire, bon, vous savez quoi, la perfusion, c'est fini. Il va falloir maintenant rembourser ce que l'État vous a avancé.
Vous savez, vous avez les prêts garantis. Donc, le prêt garanti, c'est bien ce qu'il veut dire. Hein. C'est-à-dire, c'est un prêt, vous devez le rembourser. Vous avez les reports de charges. C'est-à-dire, on vous dit, vous ne payez pas vos charges. Mais on ne vous dit pas, vous ne les payez pas. On dit, vous ne les payez pas maintenant, vous les payez après. Mais après, vous allez devoir payer, quand vous recommencez, les charges normales plus les charges d'avant.
Mais on ne peut pas les annuler ?
Alors là, à chaque fois, on se retrouve, oui, d'accord, mais qui prend la perte ? Hein, c'est-à-dire, à chaque fois, quand on va dire si on annule les prêts pour les restaurateurs, les prêts garantis par l'État, le terme dit bien ce que ça veut dire. Si on annule, ça veut dire que la banque, elle va se tourner vers qui ? Elle va se tourner vers l'État en disant c'est vous le garant, donc vous me remboursez le prêt que le restaurateur ne peut pas rembourser. Donc là, on est évidemment sur des montants qui deviennent astronomiques. Où on dit, mais on va faire comment ? Et là, c'est vrai qu'on voit bien le ministre de l'économie et des finances, pour le coup, c'est surtout le ministre des finances qui commence à avoir les petites gouttes sur le front, quoi, en disant, mais je ne sais plus jusqu'où il va falloir aller.
Bon, on va en parler ce soir. Jusqu'où on va aller, parce que certains, vous l'avez suggéré, comme Arnaud Montebourg, disent à un moment donné, il faudra peut-être annuler cette dette. En tout cas, un tiers d'entre eux, vous l'a dit tout à l'heure, Fanny Guénochet, pourrait aller au tapis. Les restaurateurs se mobilisent aujourd'hui pour demander qu'on les laisse travailler. Bruno Le Maire douche leur espoir et ne garantit plus une ouverture le 20 janvier. Pendant ce temps-là, l'État promet de les soutenir. Pour l'instant, coûte que coûte. Mathieu Lignot, Juliette Vallon et Pierre Dehorne.
Ils sont venus de toute la France à Paris pour montrer leur colère au gouvernement. Restaurateurs, gérants de discothèques, hôteliers. Ils veulent rouvrir le plus vite possible pour ne pas mourir.
Demain, qui dit que ce ne sera pas nous qui serons là-dedans ? Très sincèrement, nous avons déjà perdu des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on risque de perdre d'autres collègues. Pensez-vous que c'est normal ?
Laissez-nous travailler !
Selon un syndicat patronal, un tiers des établissements envisagerait de déposer le bilan. Pour ces professionnels du secteur, les aides de l'État ne suffisent pas.
Laissez-nous travailler ! Laissez-nous travailler !
J'ai perdu 2 millions d'euros, 700 000 euros de marge et 500 000 euros de fonds propres en espace de 5 mois. Et on a le droit à 10 000 euros. C'est comme si vous mettez une goutte d'eau dans un océan. Ça ne fait aucun effet.
Pourtant, l'État redistribue de l'argent, des milliards d'euros d'aides pour tenter de limiter la catastrophe annoncée. Les projections sont très mauvaises. La Banque de France prévoit une récession jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Moins 9% de croissance cette année et une hausse du chômage.
Nous prévoyons qu'il va y avoir un pic du chômage un peu en dessous de 11% début 2021. Et puis qu'ensuite, heureusement, les choses vont s'améliorer avec ce scénario de croissance que je décrivais. Et on se retrouverait près de 9% à la fin 2022.
Récession aussi en Allemagne, moins 5,5% selon les prévisions. Et la première puissance économique européenne subit la seconde vague épidémique. Près de 30 000 contaminations par jour. Alors la chancelière a annoncé le retour d'un confinement partiel dans tout le pays.
Nous fermerons les magasins à partir du mercredi 16 décembre. Et nous ne garderons ouverts que ceux qui vendent des produits essentiels. Nous veillerons également à limiter la vente de produits non alimentaires dans les magasins encore ouverts.
Un sacrifice pour tout un pan de l'activité allemande. Alors les députés du Bundestag dérogent à leur rigueur budgétaire habituelle. Ils ont voté pour s'endetter. Berlin va emprunter 180 milliards d'euros supplémentaires pour surmonter la crise. Certaines entreprises ont besoin d'aide, comme ces commerces. Pour eux, ce nouveau confinement arrive au pire des moments. Noël.
Si on nous ferme maintenant, en cette période, alors que nous devons faire notre plus gros chiffre d'affaires de l'année, que nous avons travaillé toute l'année pour ce moment, alors cela me met bien sûr en colère.
Je suis surprise que la fermeture n'ait pas eu lieu plus tôt, en octobre ou en novembre.
Angela Merkel au chevet de l'économie allemande et aussi européenne. La semaine dernière, la chancelière et actuelle présidente du Conseil de l'Union européenne a bataillé, poussé pour faire accepter le plan de relance. Le versement de ces aides est conditionné au respect de l'état de droit. Veto de la Pologne et de la Hongrie jusqu'à vendredi. Un compromis est trouvé, les 750 milliards d'euros débloqués. L'Union européenne respire, le président du Conseil aussi.
Je crois pouvoir dire, après quelques heures de réunions intenses, beaucoup d'engagements politiques, c'est un pas en avant important qui est fait pour l'Union européenne.
Les citoyens et les économies de l'Union européenne ont besoin de notre soutien et ils en ont besoin tout de suite. Nous devons finaliser l'adoption du plan par le Parlement européen le plus vite possible.
Les États de l'Union européenne pourraient recevoir les premiers versements du fonds de relance dès le premier trimestre 2021.
Nous allons revenir naturellement sur le rôle de l'Europe, mais d'abord cette question de Bertrand dans le Maine-et-Loire. Les aides de l'État servent-elles uniquement à repousser l'échéance des faillites inévitables, Fanny Guinochet? C'est vrai que pour l'instant, j'ai vu passer en préparant cette émission qu'il y a moins de faillites que l'an dernier à la même époque.
Oui, parce qu'on est sous perfusion, voilà, parce que pour l'instant on injecte de l'argent. Il y a eu toute la période du premier confinement qui était hibernatus, hein. On a mis quelque part, ça s'est arrêté, et puis là il y a de l'injection d'argent frais. Là encore, le budget actuellement est discuté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et l'État a remis 8 milliards d'euros pour le fonds de solidarité, donc les aides qui sont versées aux entrepreneurs, le chômage partiel, etc. Et puis il y a une autre partie quand même, ce sont le plan de relance. On l'a un peu oublié, ouais. Mais ce fameux plan de relance que le gouvernement nous a vanté à la fin de l'été, là c'est censé, comme son nom l'indique, préparer l'économie de demain, l'après-Covid, où là on met de l'argent sur des filières dans lesquelles on croit, comme la filière hydrogène ou d'autres, la transformation de notre économie pour demain être plus compétitif. Il y a le en même temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui absorbe, c'est comment on fait face à cette crise. Cette crise qui dure, c'est aussi ça la difficulté. On le voit dans toutes les économies autour de nous. C'est une crise qui est en yo-yo émotionnel, mais en yo-yo aussi, on ouvre, on ferme, on ne sait pas trop sur quelle prévision faire. On voit la Banque de France, on voyait dans votre reportage le gouverneur de la Banque de France qui fait des prévisions. Il y a encore 2 mois, c'était des prévisions complètement différentes. Hein.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur les prévisions de la Banque de France, parce que franchement, je ne sais pas s'ils ont déjà fait des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 scénarios, soit 0, soit plus 0, hein, soit plus 5, scénario central, soit plus 6. En gros, il ne sait pas tellement ce qui va se passer, le gouvernement de la Banque de France, et on ne lui en veut pas. Mais...
Alors, il dit que c'est le scénario central qui est le scénario privilégié. L'OFCE, hein, Mathieu, a une prévision, on a une prévision plus élevée, hein, à 7. Toujours, on disait, l'OFCE est généralement optimiste, plutôt, enfin, quand je dis optimiste, c'est-à-dire ils sont plutôt dans les fourchettes hautes. Mais pour le coup, je pense que là, ils n'ont pas tort. Parce que, en revanche, vous voyez, il faut dire ça aujourd'hui, au moment où on est dans la morosité complète, c'est qu'en fait, si vous regardez depuis le début de cette crise, à chaque fois qu'on a déconfiné, malheureusement, on a reconfiné ensuite, mais à chaque fois, ça a été que des bonnes surprises. C'est-à-dire, en fait, ça repart beaucoup plus vite qu'on attend. Et d'ailleurs, la Chine le démontre en ce moment. Mais on l'a vu même nous en Europe. On l'a vu aux États-Unis, où par exemple, la reprise de l'emploi était beaucoup plus rapide que prévu. Bon, et immédiatement après, bon, évidemment, vraiment, là, c'est plus de l'économie, c'est le virus qui revient, quoi. Hein. Donc, on vous reconfine, donc on dit, mais est-ce que ça va recommencer? Mais c'est vrai qu'on a bien le sentiment, quand même, à chaque fois, que si, et toujours, évidemment, c'est avec un S majuscule, quoi, si le virus est vaincu, soit par le vaccin, soit par la discipline collective, pour le moment, on est dans la discipline collective, en tout cas, là, immédiatement, l'économie repart très fort. Hein. Et donc, là, peut-être que le scénario central, même de la Banque de France, est plutôt pessimiste. Je répète, depuis le début de cette crise, à chaque fois, quand on avait fait des prévisions, on était surpris agréablement, évidemment, quand ça repart. Mmh. Et là, on est dans une période où ça repart pas, on est d'accord. Hein. Donc, les gens qui nous écoutent trouvent ça peut-être lointain.
Ça repart quand même, Mathieu Plane, un peu en Chine.
Oui, en Chine, alors c'est un peu particulier, effectivement, la Chine, où on voit que c'est le seul grand pays, hein, dans les pays les plus riches de la planète, on va dire, qui ne connaît pas une récession en 2020. Hein. C'est là aussi cette crise, sa particularité, sa singularité, c'est à la fois l'intensité de la crise, hein, c'est pour la plupart des pays la plus grande récession d'après-guerre, hein, d'après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Pour la France, c'est 3 fois plus élevé, cette récession aujourd'hui, que celle qu'on a connue même pour les subprimes, donc c'est colossal. Et en même temps, c'est sa globalité. Et donc, l'intensité plus globalité fait que vous avez un choc macroéconomique qui est inédit. Donc, les pouvoirs publics doivent naviguer là-dedans. On voit que les États, partout, joue le rôle d'assureur, hein, quelque part, pour éviter l'effondrement des économies. La question qui va se poser, c'est comment on en sort, tout ça? Comment on sort? Comment on lève la perfusion? Et qu'est-ce que ça va révéler derrière comme facture? Parce que, on l'a bien dit, il y a des secteurs qui vont être sinistrés avec les prêts garantis par l'État qui ont permis à beaucoup de petits commerces, des PME, TPE, de survivre, mais qui n'ont pas les reins solides. Et est-ce qu'elles auront les capacités de dégager des rentabilités élevées pour rembourser tout ça? Moi, j'ai peur que, malheureusement, il y ait encore beaucoup de casse. Et pour le moment, on a plutôt géré l'urgence, plutôt pas si mal que ça, parce qu'on a évité un effondrement. Mais maintenant, on voit que c'est une crise à tiroir et que certainement des choses difficiles sont encore devant nous.
Avec le plan de relance, juste un mot, Philippe de Serptine, quand même, ce qu'on vient de voir, il faut en dire un mot, 750 milliards, l'Europe solidaire pour gérer et pour faire face à la crise, avec des montants qui sont fous. Hein.
Oui, des montants astronomiques. Hein. Donc, c'est un plan absolument énorme par rapport à tout ce qui était attendu même, hein, on va dire, beaucoup plus fort. L'Europe devient le premier emprunteur en euros, ce qui n'est pas un avantage pour nous, parce que du coup, on a un concurrent. Parce qu'évidemment, quand l'Europe emprunte, a priori, elle est plus solide que n'importe quel État, mis à part l'Allemagne, peut-être, si vous voulez. Donc, elle va manger des places sur le marché de la dette l'année prochaine, incontestablement. D'ailleurs, l'Agence France Trésor en France dit « Dépêchons-nous d'emprunter quand même avant que l'Europe arrive. »
Ça voudrait dire quoi, remonter des taux pour les Français?
Ça veut dire peut-être plus de difficultés à placer notre dette. Aujourd'hui, on n'a pas de soucis. D'accord. Mais quand les Européens vont proposer des énormes montants, les investisseurs aujourd'hui qui cherchent justement de la dette publique, parce qu'ils disent ça, c'est solide, au moins dans les périodes qui viennent, ils adorent la dette européenne. A priori, ce serait une dette bien solide. Oui, oui, c'est vrai que l'Europe, là, est en train de développer un plan extraordinaire. Ça veut dire solidarité plus grande. Ça voudra dire aussi d'obligation de remboursement commune. Hein, c'est-à-dire, on voit bien dans le plan, si vous vous souvenez, hein, on l'a expliqué à l'époque, tout le monde n'avait pas complètement entendu. Hein, c'est-à-dire, vous avez une partie qui va être dévolue aux États. Et quand on va avoir, je dirais simplement, un prêt qui est donné, bah, c'est l'Europe qui va récupérer les sommes. Hein, c'est-à-dire, là aussi, c'est une dette. Et donc, pour récupérer des sommes, c'est simple. Hein. Il faut qu'il y ait de l'impôt à un moment donné qui rentre.
Eh ben, on va en parler dans un instant, mais je voudrais vous poser la question, Bruno, jeudi. Il y a cette phrase d'Angela Merkel qui dit « Nous ne pouvons pas maintenir ce niveau de soutien indéfiniment ». Est-ce qu'au sein de l'exécutif, on pense déjà à l'après? C'est-à-dire, on voit bien, et vous l'avez très bien expliqué les uns les autres, on a mis l'économie sous cloche parce que bien sûr qu'il y avait urgence et qu'il fallait venir au secours des secteurs les plus sinistrés, les plus en difficulté. Mais est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on pense déjà au scénario de sortie?
Écoutez, le président est vacciné par ce qui s'est passé cet été. Il avait beaucoup misé sur le plan de relance. Souvenons-nous, c'était la grande œuvre du ministre de l'économie qui avait passé tout son été à peaufiner ce plan de relance, 100 milliards. Et le président voyait comment il pouvait déjà dessiner l'après avec ce plan de relance. Ouais. Et puis patatras, la deuxième vague est arrivée, a finalement passé presque, au moins médiatiquement, par perte et profit, un peu ce plan. On n'en parle plus ou peu. On a repris, hélas, les habitudes du premier confinement et du premier déconfinement, c'est-à-dire qu'on dépense 8 milliards, Fanny Guinochet le rappelait, le ministre a sorti l'argent magique, 8 milliards pour abonder et faire face au financement de la deuxième vague et peut-être de la troisième vague, comme l'indique parfois sur votre plateau des spécialistes. Ouais. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la ligne qui prévaut autour d'Emmanuel Macron, c'est il y a un temps pour tout. vous. Quand vous êtes malade, vous ne demandez pas combien va coûter l'opération. D'abord, vous soignez, quel que soit le coût. Et l'idée, en gros, pour faire simple, c'est reprenons des forces, attendons de retrouver le niveau d'avant Covid pour réfléchir un peu à l'après, réfléchir à comment on financera tout ça. Aujourd'hui, c'est l'urgence. Alors évidemment, vous allez me dire, on est dans un climat, j'allais dire presque bientôt d'élection présidentielle. Ouais. On voit bien que la crise sanitaire continue à être, au fond, à être le maître des horloges.
C'est une chose de penser au remboursement. Si, à remboursement, on va en parler dans un instant. C'en est une autre de se dire, ce que dit Angela Merkel, on ne pourra pas maintenir ce niveau de soutien de manière durable, même dans un futur proche, c'est-à-dire avant les vacances d'été. Est-ce que Fanny Guinochet, là-dessus, il y a une petite musique qui est en train de monter, où certains disent le chômage partiel, l'aide aux restaurateurs, l'aide aux services de la culture et autres. Il va falloir sortir sur la pointe des pieds.
Voilà, il y a quand même de l'inquiétude. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit il y a quelques jours à peine, que quelque part, les aides seraient plus ciblées sur les secteurs les plus fragilisés, les plus en difficulté. Donc probablement en 2021, l'année prochaine, c'est-à-dire demain, il y aura toujours le même niveau d'aide, mais peut-être plus concentré sur certains secteurs. Ce n'est pas dit que le chômage partiel soit équivalent comme aujourd'hui, toute entreprise peut en bénéficier. Il y aura certainement des restrictions. Je pense qu'on s'achemine vers ce type de mesures parce que, vous le disiez, Philippe Dessartines, mais il a des gouttelettes, Bruno Le Maire, et derrière un certain nombre de membres du gouvernement également. Et Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier, à la base, il est passé par le ministre de l'économie, il est inspecteur des finances, ça lui parle. Et il se dit qu'effectivement, le quoi qu'il en coûte à tout va, eh bien, il y a un moment, ça va poser problème. Ça va d'ailleurs être l'occasion du débat, là, à l'Assemblée, puisque vous avez un certain nombre de députés qui disent il faut arrêter avec la dette. Justement, on est arrivé à un niveau de 122% de notre PIB, notre produit intérieur brut, l'année prochaine. C'est un niveau qu'on n'imaginait même pas et qui ne va pas être soutenable à l'avenir.
Les Allemands sont à 77 vont passer à 77 avec le nouveau plan voté aujourd'hui ou hier. Notre dette à nous, 122% du PIB. Est-ce que, quand on est le spécialiste que vous êtes, il y a un seuil maximal pour la France ? Est-ce qu'on se dit, au-delà de 150, on ne pourra pas ? Évidemment, je donne ce chiffre-là au hasard. Ou est-ce qu'au fond, à partir du moment où on peut emprunter, il n'y a pas de limite ?
Alors, s'il y a une limite, et je crois que d'ailleurs, vous voyez, dans les chiffres, quand on est dans les pourcentages, un peu nos téléspectateurs doivent être un peu... Les pays émergents, c'est-à-dire les pays pauvres, vont être à la fin aux alentours de 65%. C'est-à-dire ceux qui s'endettent massivement, c'est les pays riches. Donc ça, pourquoi, évidemment, on va dire, bah oui, parce qu'ils créent beaucoup de richesses, donc ils peuvent beaucoup rembourser. Mais sauf qu'ils créent beaucoup, beaucoup de dettes. Maintenant, ils créent une dette absolument incroyable. Et la croissance n'est plus chez nous. Elle est bien davantage, et là, pour le moment, on a la Chine qui repart, l'Asie va repartir beaucoup plus fort que nous au départ, la création de richesses, elle se fait là-bas. Je crois vraiment, par rapport à la question que vous posez, à quel moment ça explose ?
À quel moment on dit qu'il va falloir sortir sur la pointe des pieds de ces aides-là, parce qu'on ne pourra plus ?
Alors, je crois vraiment, vous voyez, quand on parle du nouveau vaccin, là, la science a fait une avancée. Quand on est une nouvelle énergie, la science, on ne connaissait pas, formidable, ça change tout. En économie ou en finance, il n'y a pas eu d'avancée. La dette, créer de la monnaie, ça on sait faire depuis très très longtemps. Depuis des millénaires, les gouvernements ont tendance à succomber souvent à la tentation de dire quand je donne de l'argent aux gens, ils m'aiment bien.
Et après, ça marche plutôt
ça marche pas mal jusqu'au moment. Vous dites, c'est quoi le moment ? Le moment, c'est le moment où les gens disent, mais en fait, j'ai plus confiance dans ta monnaie. C'est-à-dire, en fait, là, on est dans du symbole, quand on parle de dette, de monnaie. On n'est pas dans quelque chose, répétons-le, qui est une science dure, quoi. Vous n'êtes pas avec quelque chose, on dirait, ça, c'est intangible, c'est la monnaie. C'est pour ça qu'on mettait de l'or autrefois, parce qu'on disait, au moins, ça, les gens, ils voient à peu près, et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Là, la dette, la monnaie, le moment où tout d'un coup, vous avez basculé, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Mais ça arrive. C'est le moment où tout le monde se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai dans la poche, là, exactement ? Qu'est-ce que ça représente ? Si ça représente une richesse dont je ne suis pas sûr, eh bien là, vous commencez à avoir la crise de confiance, et c'est ce que redoute tout le monde. Parce que dans l'histoire, toutes ces idées de surendettement, de la dette, on va la tenir, on va la faire rouler, on y a pensé, mais 40 fois dans l'histoire, depuis des siècles.
Et ça s'est fini comment ?
Ça se finit à la fin, crise de confiance. C'est-à-dire là, tout s'effondre d'un seul coup, d'un seul, parce que tout le monde commence à dire « mais en fait, ça vaut rien ». Et ceux qui pourraient en parler, ceux qui ont été tellement traumatisés par ça, c'est les Allemands notamment, vous voyez, juste après la Première Guerre mondiale, ils avaient émis de la dette comme des fous en disant « il faut gagner la guerre ». Donc on va y mettre de l'argent. On y met... Vous comprenez, il faut. Quand Macron a parlé de guerre, on voit bien le rapprochement. En disant, là, on y va,
bien
on
sûr,
y va.
Il n'y a plus de sujet. C'était quoi qu'il en
coûte. Tout d'un coup, on a perdu la guerre. Et puis après, les gens disent, mais c'est quoi le marque que j'ai? Je ne sais pas. Et là, vous avez une inflation tellement folle que la seule similitude qu'on pourrait trouver aujourd'hui, c'est notre Venezuela contemporain avec les 1 200 000% d'inflation. Vous voyez, c'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de monnaie. Quand il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de structure. Surtout, il n'y a plus de vision dans le futur. On a l'euro, mais on est en train d'en émettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la création de richesse en face de l'euro, c'est quoi? Alors actuellement, le système tient parce qu'on dit c'est les pays très riches. Oui, très, très riches, ils ont beaucoup, beaucoup de dettes maintenant. Ils ont de la dette à l'échelle de leur richesse. Donc il y a vraiment un point d'interrogation sur la confiance.
Il y a un point d'interrogation sur la confiance, y compris de l'Europe, en l'Europe, entre la Chine et les États-Unis et les puissances émergentes.
Bien sûr, bien sûr. L'Europe peut avoir cette grande question, surtout que les États-Unis ont l'avantage, c'est qu'ils font faire du dollar par tout le monde. Ils créent de la richesse en dollars. Nous, on ne peut pas.
Eh bien, il y a une solution. On efface tout. Cette petite musique est en train de s'installer dans le débat public. Et si on effaçait la dette? Et si les Européens s'entendaient pour annuler toutes les créances liées à la crise du Covid? C'est ce que défend l'ancien ministre quand même en charge de l'économie, Arnaud Montebourg. Une proposition reprise ce week-end par Jean-Luc Mélenchon, alors que le gouvernement assure qu'il n'y a qu'une seule option crédible, rembourser. Laura Rado, Stéphane Lopez.
Nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros.
Nous mettrons en place 3 milliards d'euros de garantie de l'État sur des placements financiers.
100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2000.
Une pluie de milliards pour éteindre l'incendie du Covid. Le résultat du « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. Pour protéger les ménages, soutenir les entreprises face à la pandémie, la facture est salée. Une dette publique à près de 120% du PIB cette année, un niveau jamais atteint en France. Et une question devenue brûlante, qui doit payer la dette du Covid? Pour certains à gauche, il est déjà trop tard.
Est-ce que vous annoncez à la jeune génération et à ce pays que vous allez mettre 20 ans pour payer la dette du Covid, plus 100 ans pour payer...
Sous cette bien sûr que c'est la jeune génération qui va payer.
On est donc... Mais non, elle ne paiera rien. J'espère qu'elle aura plus de courage que ses parents et qu'elle saura mettre un terme à cette comédie. La dette n'est pas payable.
C'est tout simplement impossible de rembourser cette dette. On ne va pas avoir des plans d'austérité ad vitam aeternam pour rembourser une dette dans laquelle nous n'avons finalement aucune responsabilité ni morale, ni politique, ni économique.
Effacer l'ardoise... Hors de question pour le gouvernement, qui craint pour sa crédibilité. Le patron de Bercy assure se donner du temps pour rembourser, au moins 20 ans, et expose ses solutions pour y parvenir.
La France a toujours honoré sa signature. Et elle honorera aussi sa signature sur cette dette. Je considère qu'il faut, au-delà de la réforme de l'assurance chômage sur laquelle travaille Elisabeth Borne, regarder attentivement quand et comment nous pouvons engager une réforme des retraites en France.
Le retour de la très inflammable réforme des retraites. Laissée en suspens au mois de mars, au début de la crise sanitaire, elle avait déclenché 55 jours de grève dans les transports publics et poussé des milliers de personnes dans les rues. Alors le gouvernement est-il prêt à rallumer la mèche un an avant l'élection présidentielle? La CFDT, soutien d'un régime universel à points, le conjure de ne pas remettre le dossier sur la table.
Si, en 2021, ce gouvernement envisage un allongement de la durée du travail pour l'ensemble des travailleurs en jouant sur l'âge, la durée de cotisation, etc., il ferait une erreur majeure.
Au sein même de la majorité, le débat fait rage, notamment sur le calendrier. Moins pressé que Bruno Le Maire, le président de l'Assemblée nationale juge nécessaire de se remettre de la crise avant toute chose.
Je considère que la première intuition qui était la mienne de dire que c'était une excellente première réforme de deuxième quinquennat,
d'accord,
et finalement assez adapté, hélas, j'ai envie de dire, à l'ère du temps.
Où dès lors trouver ces 200 milliards qu'aura coûté à ce jour la crise sanitaire? L'exécutif l'a répété, toute hausse d'impôts est exclue. Mais certaines des plus grosses fortunes font entendre une autre musique. À l'image des milliardaires Bill Gates ou Warren Buffett, 83 millionnaires du monde entier ont demandé à être taxés davantage. En France, c'est un ex-patron de la SNCF qui appelle à plus de solidarité de la part des plus riches.
La crise sanitaire a creusé les inégalités. On le voit bien d'ailleurs, les personnes les plus riches ont épargné, même assez massivement, et les 20% les plus pauvres se sont endettés. Donc je propose une mesure fiscale temporaire, 2 ans par exemple, qui porterait plutôt sur l'impôt sur les revenus, parce que c'est ce qu'il y a de plus emblématique, de plus visible.
Une proposition soutenue par le FMI, qui invite également les gouvernements à taxer les entreprises les plus riches.
Bruno Jeudy, cette question, Mélenchon et Montebourg croient-ils au Père Noël ?
Ils croient peut-être à l'argent magique, comme Emmanuel, selon l'expression d'Emmanuel Macron. C'est un classique, j'allais vous dire, Caroline Roux, chez Jean-Luc Mélenchon. Le débat sur la dette, avant même la crise sanitaire, qui est évidemment une crise extrêmement particulière, il était déjà sur la question de l'annulation de la dette. Il faut savoir que le thème de la dette est central dans l'ancien monde. C'est un thème qui a été au centre des campagnes présidentielles de 2007 et 2012, qui a divisé fortement et a même le clivage politique s'est structuré sur cette question. Et au fond, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg aujourd'hui, était déjà sur ces questions d'annuler la dette. Je fais simple. Donc forcément aujourd'hui, entre annuler la dette, augmenter les impôts, taxer les multinationales, on est sur un clivage assez classique de la gauche extrême sur ces questions-là. Mais ça, avec la crise du Covid, ce qui est intéressant, c'est que ce débat et cette question de la dette, on voit, rattrape aussi une partie de la gauche plus modérée, voire de certains sur l'autre versant de l'échiquier politique. Et du coup, naturellement, les marcheurs sont tiraillés, ce qui est logique, c'est leur positionnement politique. On voit bien un Richard Ferrand et un Bruno Le Maire qui ne sont pas du tout sur les mêmes options.
Mathieu Plane, on entendait Arnaud Montebourg avec des arguments quand même dire personne n'y est pour rien de cette crise. La personne n'est responsable, on a dû parer à l'urgence et personne ne pourra de toute façon la rembourser. Il faudrait mettre en place des plans d'austérité et ça, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Voilà l'argument développé par Arnaud Montebourg. Et il n'est pas le seul à se dire qu'au fond, ça va être compliqué de rembourser des sommes aussi astronomiques que celles dépensées pour faire face à la crise.
Je dirais ça, c'est que à crise inédite, il faut aussi trouver des réponses inédites. Cette dette-là, elle n'est pas liée à une mauvaise gestion des finances publiques. C'est un choc commun à tous les pays du monde, extrêmement violent. Il se trouve que la Banque Centrale Européenne n'est pas la seule à faire ce qu'elle fait dans le monde. Vous avez la Réserve Fédérale Américaine, vous avez la Banque Centrale Japonaise, la Banque d'Angleterre. Tous les pays font ça aujourd'hui. Donc, je dirais, la dette, aujourd'hui, était plutôt une solution qu'un problème. Le problème, il va être après. Mais si on n'avait pas eu la possibilité des États de s'endetter massivement pour soutenir leur économie, on serait dans une situation catastrophique. Donc, je dirais, merci la dette, là, tout de suite, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui à vous parler tranquillement. On serait avec des millions de chômeurs et des faillites, on n'en parlerait pas encore. On serait dans un autre monde. Donc, la question va se poser après. C'est comment on rembourse cette dette ? C'est vrai que elle est colossale, et c'est vrai qu'il va y avoir des instruments nouveaux qui vont être mis en place, et quelque part Bruno Le Maire, il ne dit pas qu'il va falloir la rembourser normalement, non plus, s'il parle de 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que la particularité, c'est que la Banque Centrale Européenne détient cette dette nouvelle, qui est une dette Covid, qui est quand même assez commune à beaucoup de pays, c'est que le choc est commun. Et donc forcément, une partie de cette dette ne va pas être traitée comme les autres dettes. C'est pour ça qu'on est dans une situation différente. On n'est pas dans le cas de la Grèce, on n'est pas dans le cas de l'Italie. On est dans des cas quand même qui sont très différents. On n'est pas dans une crise d'Argentine ou de Venezuela. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces comparaisons. Les taux aujourd'hui sont négatifs. Je ne dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes grâce au rachat des banques centrales, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des nouveaux instruments. On voit que toutes les banques centrales font la même chose. Et regardez, l'euro ne se déprécie pas, au contraire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une défiance vis-à-vis de l'euro, malgré cette politique hors du commun. Donc, c'est vrai que ça va être central, mais je dirais que c'est un sujet politique qu'il va falloir mener de façon commune en Europe. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne pourra pas prendre cette décision seule, mais je ne pense pas que la dette Covid, en tout cas le choc Covid, va être traité comme les autres chocs, même si, bien sûr, il faut s'attendre, malgré tout, à des efforts budgétaires, parce qu'une partie de cette dette sera certainement une dette souveraine.
En tout cas, il y a une partie de la classe politique qui avance sur l'idée d'effacer une partie de la dette. Mathieu Plane a l'air de laisser penser, corrigez-moi si je résume mal votre propos, qu'on peut effacer une partie de la dette, en tout cas la redistribuer de manière à ce qu'elle ne pèse pas. Alors, ce n'est pas ça. Alors, dites-moi. Qu'elle ne pèse pas sur les générations.
C'est techniquement, on peut la faire rouler sur le...
Oui, la faire rouler.
Mais ce n'est pas pareil. C'est-à-dire effacer, c'est quand même très différent. Ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que c'est maintenir au bilan de la Banque centrale pendant des années. voir comment justement on la gère. Mais c'est différent d'une annulation.
On n'efface pas, mais on dit qu'on va la rembourser en 2092 et qu'elle reste dans un petit coin d'une ligne d'écriture.
Voilà. Mais en tout cas, ce que dit Mathieu Plane et ce que disent un certain nombre d'économistes, c'est aussi merci l'Europe quelque part. Parce qu'une partie de cette dette, il n'y a pas que la France qui la détient, c'est au niveau européen. Maintenant, on verra, et là, ce sera politique, la capacité de l'Europe à se mettre d'accord sur la façon, quel mécanisme nouveau, en tout cas, quel mécanisme on utilise
pour éviter les plans d'austérité,
faire rouler la dette, pour reprendre l'expression de Mathieu Plane, ou en tout cas, faire en sorte qu'elle ne pèse pas trop sur l'économie dans les années à venir. Après, sur la dette française, ce qu'il faut rappeler, et le ministre de l'Économie ne peut pas dire autre chose aujourd'hui que bah non, on ne peut pas effacer la dette. Si vous dites ça, c'est comme si moi, je vous prêtais de l'argent, je vais revenir vous voir. Si vous effacez, vous n'allez plus me prêter. Vous allez dire, bah là, c'est pareil.
Ça ferait grimper les taux à la seconde.
Aujourd'hui, Bruno Le Maire ne peut pas dire, et personne au gouvernement ne peut dire, la solution, ça va être d'effacer la dette parce qu'on n'aurait plus personne qui nous prêterait de l'argent. Et il y a une particularité quand même qu'il faut dire sur la dette française, c'est qu'elle est détenue, une partie, par des épargnants français. Et on a quand même aujourd'hui l'épargne en France est considérable. Alors il y a tout un tas de personnes qui ne peuvent pas, malheureusement on l'a vu avec cette crise, qui se prennent la crise de plein fouet et qui n'ont pas d'épargne, mais vous en avez aussi toute une partie. Et c'est de l'épargne, c'est de l'assurance vie, hein. C'est pas des trésors ou c'est sur des comptes. Et là, si on effaçait la dette, ce seraient les premiers à être lésés.
On ne peut pas effacer la dette alors, Philippe de Sertine?
Oui, mais non.
On peut la faire rouler. Oui,
mais vous roulez, c'est pareil. Enfin,
comment ça, c'est pareil?
Non, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein. Oui, mais si, c'est pareil. Il n'y a pas 36 solutions.
Non, c'est très important. Non, c'est dette BCE. Hein. C'est pour ça que c'est
Très important.
Ce n'est pas la dette des investisseurs privés. Hein.
Voilà. Oui, non, mais bien entendu.
Non, mais voilà, c'est important peut-être de faire le distinguo pour les épargnants qui nous regardent. Ce n'est pas exactement la même chose.
Oui, mais si vous voulez, on est là, toujours pareil. On est en train de découvrir des choses en disant oui, mais maintenant, c'est possible. Comme il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé que les taux négatifs, c'était possible. Quand on dit taux négatifs aujourd'hui, on dit oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. On est dans un système complètement anormal qu'on prolonge parce qu'on sent qu'il y a une aberration. La vraie problématique autour de laquelle on est, et je le répète, la Chine va être à 65% de dette sur PIB. Les États émergents sont à 65%. Ça, c'est tenable. C'était d'ailleurs c'est Maastricht. Quand Mathieu Plane a parlé des banques centrales qui font tout ça, non, il a parlé que des grandes banques centrales, des pays riches. Les pays riches, c'est eux qui produisent de moins en moins de richesses et qui vont en produire de moins en moins. C'est ça le problème central autour duquel on est, pas du fait du Covid, mais depuis un moment. C'est que peu à peu, il y a la bascule. Les pays riches sont concurrencés par les pays émergents et la monnaie et la finance est toujours tenue par les pays riches. Donc voilà, alors là, du coup, on est en train d'inventer des choses. Donc je pense qu'il y aura vraiment cette question qui va se poser. La question de dire comment on remet la nouvelle richesse. Alors peut-être avec les pays émergents, mais peut-être aussi une nouvelle richesse dans un nouveau modèle économique. Ça, c'est la solution vers le haut. Ça va être, par exemple, vous voyez tout ce qui va être autour de la relance écologique, développement durable, les nouvelles technologies, fonctionner différemment. Là, tout d'un coup, vous êtes avec quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire on ne calcule plus le PIB, la richesse créée, de la même façon. Mmh. Et là, peut-être, vous avez une vraie chance de dire on peut arriver à ajuster notre niveau de monnaie par rapport à la richesse.
Vous ne croyez pas aux solutions du monde ancien, hausse des impôts ou économie structurelle, réforme des retraites? Ça ne suffira pas.
Je crois vraiment qu'il faut être très clair. Pourquoi la France arrive à emprunter aussi bien aujourd'hui? Parce qu'elle emprunte très bien. Parce que, on a dit, comme l'a dit Mathieu, les banques centrales ont mis artificiellement les taux très très bas. Donc effectivement, c'est un avantage. Plus on emprunte en ce moment, on a entièrement emprunté à taux négatif. La dette nous coûte de moins en moins cher. Les politiques
disent,
continuons. Oui, c'est formidable, c'est magique. Donc, alors qu'on emprunte de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de risques. Deux, on est associé à l'Allemagne, qui, vous l'avez dit, elle est toujours vertueuse. Alors elle est en train de se paniquer parce qu'ils arrivent à 77%. Donc nous, ça fait longtemps qu'on n'y est plus du PIB de dette. Trois, parce que nous avons une épargne colossale en France. Et ça, les épargnants français, peut-être qu'ils vont être très contents, mais en même temps très inquiets de savoir que c'est eux la garantie. C'est-à-dire, quand vous parlez à des investisseurs étrangers, des gens qui achètent la dette française, ils vous disent « Ah oui, mais chez vous, il y a une épargne énorme. » Et d'ailleurs, on l'a renouvelée encore. Avec Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas dépensé. On veut faire un plan de relance 100 milliards. On a déjà épargné 100
milliards d'euros de plus d'épargne
à la fin de l'année. C'est ce qu'a dit la Banque de France. On va être à 130 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus que le plan de relance.
La hausse des impôts, On entendait dans le reportage que des grandes fortunes mondiales disent qu'il va falloir taxer les plus riches. C'est des propositions qui vont être aussi dans le débat pour la prochaine présidentielle. Ouais. Est-ce que ça peut suffire pour nous remettre dans les rails ?
Ça ne suffira pas, mais clairement, la question, elle va se poser. Elle se posait déjà avant, dans le monde d'avant. Il n'y a aucune raison, surtout que là, il y a des inégalités, mais elles vont se creuser. On voit bien que les plus pauvres, aujourd'hui, si la crise dure encore, il y a un risque quand même de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à voilà. Donc c'est vrai qu'on va se tourner du côté de ceux qui ont engrangé de l'argent, qui ont de l'épargne, qui quelque part ont profité ou en tout cas n'ont pas perdu. D'accord. Ou en tout cas étaient déjà vus comme des fortunes. Et en France, on sait très bien que cette question-là, ça fait partie de notre culture. La question de l'égalité. Et alors, en plus, avec un Emmanuel Macron qui était quand même le président qui a supprimé l'impôt sur la fortune, même s'il l'a remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Clairement, cette question, elle va se poser très rapidement dès 2022, dès la campagne prochaine.
Bruno, je voudrais avoir votre avis sur cette phrase assez énigmatique prononcée par Emmanuel Macron lors de son interview aux médias bruts. Peut-être que je ne pourrais pas être candidat, peut-être que je devrais faire des choses dures dans la dernière année qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Quand il dit ça, on pense aussi des choses dures, c'est-à-dire des réformes, annoncer des réformes pour faire des économies. Qu'avait-il derrière la tête ? Est-ce que cela peut être ce genre de décision auquel il pense, le chef de l'État ?
Alors d'abord, c'est vrai que c'est une phrase qui a surpris jusqu'à parmi ses plus proches, qui ne s'attendait pas à une réponse. Alors, il savait très bien, dans ce type d'interview, même si c'était sur un média pas classique, que le président n'allait pas répondre à 2 ans de la présidentielle, oui, je suis candidat. Mais oui. La façon dont il a botté en touche a plutôt surpris. Alors, évidemment, ça cache peut-être, effectivement, des décisions difficiles, et puis surtout, le fait qu'aujourd'hui, il le dit lui-même en privé, je ne suis plus maître des horloges. Dans sa tête, c'est très important. C'est au fond, la crise sanitaire pour cette fin d'année, et sans doute, peut-être encore pour le premier semestre 2021, risque de continuer à rythmer sa présidence. Il n'a plus la main sur le calendrier. Donc, forcément, ça rime aussi avec des décisions difficiles. C'est ça qu'il a en tête aujourd'hui. Il sait que par exemple, on va continuer sans doute à s'endetter s'il y a pour la crise sanitaire, et ça va être difficile de stabiliser la dette. Et forcément, le niveau de soutien aux entreprises, le niveau de soutien pour les salariés avec la prise en charge du chômage, peut-être que l'État-providence sera moins généreux en 2021. Personne ne le sait aujourd'hui, et le président se méfie de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il refuse de mettre sur la table, au fond, la question, et il repousse le plus loin possible la question dont vous parliez à l'instant, des impôts, des retraites. Il ne veut pas les remettre tout de suite parce qu'il sait bien que c'est trop compliqué de le faire. Il faut quand même dire que chez nos voisins, la question, elle est beaucoup plus déjà posée sur la table. Le ministre allemand a posé la question de éventuellement taxer les plus riches le moment venu.
En tout cas, au-delà du débat politique et du débat parfois des économistes, il n'y a pour l'instant pas d'autre choix que de parer à l'urgence sociale. À Lourdes, toute la ville est à l'arrêt. Plus de touristes, plus d'activités et des familles qui plongent dans la précarité avec parfois, vous allez le voir, la honte de devoir demander de l'aide. Émilien David et David Lemarchand.
Dans les rues de Lourdes, un silence pesant. Les rideaux métalliques sont baissés devant la quasi-totalité des commerces depuis des mois. Les 6 millions de pèlerins qui peuplent la ville chaque année ont déserté.
C'est mort, hein ? T'as vu ? Et même pas eu ça.
Lindsay Martin, 34 ans, subit cette crise de plein fouet. Cette vendeuse a perdu son emploi juste avant la crise. Impossible aujourd'hui de rebondir.
C'est très difficile de trouver quelque chose. Où vous voulez qu'on postule ? Comment faire ? C'est pas possible. Et les peu de magasins qui vont être ouverts ou quoi ne n'embaucheront pas parce qu'on ne sait pas comment va se passer demain. Là, ils ont pu rouvrir pour les fêtes. Mais est-ce que demain, ils vont rester ouverts ? Est-ce qu'ils vont pouvoir embaucher comme avant et tout ça ? C'est tout ça, on ne sait pas. Et voilà. Donc on postule, on attend et on prie. On est à Lourdes, on peut croire encore au miracle.
En attendant le miracle, cette mère de 4 enfants passe l'essentiel de son temps en famille, dans cette maison achetée il y a une dizaine d'années avec son mari, cuisinier saisonnier et lui aussi au chômage.
Donc on a la chance de pouvoir manger midi et soir avec nos enfants et tout, ce qui n'est pas le cas en temps normal quand on travaille. Parce que mon mari, on ne le voit jamais, enfin, quasiment jamais et tout, par rapport à ses horaires, son travail. Il faut qu'on arrive à se supporter aussi maintenant, parce que c'est pas facile, hein, qu'on n'est pas habitué à vivre ensemble, en fait.
Des rires qui cachent une angoisse, celle des fins de mois difficiles. Avec la crise, le foyer a perdu 1 000 euros par mois. Fini le train de vie confortable, les comptes sont minutieusement tenus.
Là, c'est de l'argent que j'ai emprunté à ma fille, donc tous les mois que je lui rembourser. Parce qu'on a la, enfin, on a la chance, ils ont chacun des comptes. Et tout ce que, qu'ils ont eu pour leurs anniversaires, les naissances, les baptêmes, donc on leur a ouvert des comptes, ils ont des comptes. Et voilà, des fois, quand on est dans la mouise, ben, on pioche un peu sur les comptes des enfants et on remet comme on peut ou quoi. On a toujours travaillé. Et c'est malheureux de devoir faire des crédits pour réussir à s'en sortir un minimum, quoi.
C'est très compliqué, là, de se dire que ben, seul, on ne peut pas y arriver, quoi. C'est... On a eu besoin de personnes jusqu'à maintenant. Enfin, comme je dis, on a toujours travaillé, donc c'est pour ça qu'on n'a pas été embêtés.
Aujourd'hui, la situation n'est plus tenable.
2 adultes, 4 enfants.
Alors, depuis quelques semaines, la famille sollicite l'aide alimentaire proposée par cette association de saisonniers créée cet été à Lourdes. Jamais Lindsay Martin ne s'était imaginé en arriver là.
C'est en fait la honte de venir demander de l'aide, cette gêne en fait, parce qu'on n'était pas habitué. On n'a jamais été habitué comme ça, donc malheureusement, ouais, on est obligé un jour d'ouvrir les yeux et de dire ouais, malheureusement, on en a besoin et on n'a pas le choix.
Ici, la mère de famille vient également trouver une écoute.
Tu veux t'asseoir, Pépette ? Allez, va t'asseoir.
Indispensable pour rompre la solitude, une bouffée d'air frais pour ne pas étouffer.
On prend tout dans la gueule d'un coup, en fait. Le fait d'avoir moins de revenus, de la solitude, personne pour nous écouter, c'est tout ça qui... Et ça fait, comme je vous disais, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut essayer de ne pas y penser. Pour ça, moi, comme je vous disais, moi, j'ai les enfants et tout ça, donc parce que sinon, le problème, c'est qu'on va penser à tout ça, ça va nous travailler, et c'est là où on va... On va déprimer, on va faire des dépressions, on va perdre pied, en fait.
Aujourd'hui, plus de 140 familles de saisonniers de Lourdes bénéficient de l'aide alimentaire proposée par l'association. Pour la quasi-totalité d'entre elles, c'est la première fois qu'elles demandent de l'aide.
Et demandent de l'aide à l'État, Philippe de Sercine.
Oui, enfin, ou des associations. Je crois vraiment que ça, c'est l'aspect aussi très important. On a commencé par les restaurateurs, les professionnels, etc. Mais je pense que oui, cette crise, elle se traduit aussi par une augmentation qui est une augmentation réelle et forte de la pauvreté dans notre pays. C'est-à-dire, c'est quand même ça le paradoxe. Hein. On n'a pas de faillite, on a du chômage partiel, mais en réalité, vous avez les gens qui étaient à la limite, qui passent de l'autre côté de la limite. Et je pense que ce qu'on a vu dans le reportage est typique de ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup de villes françaises. C'est beaucoup de gens qui, en fait, ont un deuxième métier complémentaire le soir, notamment des femmes isolées. Là, c'était un couple, mais le deuxième métier qui vous fait que bah, vous n'êtes pas juste à la pauvreté. Maintenant, là, il n'y est plus. Parce que là, on a eu, avec cet arrêt de l'économie, je dirais, vous pouvez avoir même le chômage partiel sur une partie, ça ne vous tient pas. Ouais. Et donc là, on voit bien le basculement, mais... ça, c'est généralisé, et on a tous les indicateurs. Hein. Les offices d'HLM vous disent qu'ils n'ont jamais eu autant de non-paiement de loyer, on a les problèmes sur les
paiements d'électricité. Les restos du cœur, la fréquentation, plus 25%.
Les banques alimentaires, etc. Partout, on a tous les indicateurs qui remontent, ça veut dire, effectivement, là, c'est l'autre côté de la crise. Là où, effectivement, l'État, en fait, n'est pas là, parce que tout d'un coup, c'est l'économie, on va dire, de bricolage, mais qui permet à une partie de la population de rester à peu près la tête hors de l'eau, qui ne marche plus.
Malgré tout, on se posait la question tout à l'heure de se dire quand est-ce qu'il faudra ou il faudrait retirer la perfusion. Quand on voit ce reportage, on se dit qu'on n'est pas prêt de retirer cette perfusion parce que l'État-providence, s'il a été utile, bien sûr, depuis le début de la crise, reste utile pour tous ces gens qui basculent dans la pauvreté.
Oui, mais ce que montre aussi ce reportage, et ce que l'on sait, c'est que notre modèle social qui est très protecteur, il ne l'est pas pour un certain nombre de gens. Et effectivement, il y a des trous dans la raquette et ce sont eux, aujourd'hui, qui prennent, la dame le disait très bien, le prix fort, c'est-à-dire Et on sait, c'est très simple, hein, les indépendants, on sait depuis le début que ce sont des gens qui n'ont pas accès au chômage. Alors le gouvernement a mis en place une aide, une allocation chômage, c'est que Emmanuel Macron avait mis dans son programme, mais on voit très bien que pour l'instant elle ne fonctionne pas, pas suffisamment. Et d'ailleurs, Alain Griset, le ministre des PME, a dit qu'ils allaient faire de nouvelles propositions. Il y a tout un tas de personnes comme ça qui sont en dehors du salariat. Cette crise, elle remet aussi de plein fouet le distinguo que l'on avait tous pointé sur les gens qui sont dans le système, qui sont salariés, qui sont en CDI, ouais, dans les grosses entreprises plutôt que dans les petites, et puis les autres qui, effectivement, sont des permittents, des saisonniers, des précaires, des travailleurs, mais des travailleurs pauvres. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, et c'est tous les gens aussi qui vivent avec ce qu'on appelle l'économie informelle, c'est-à-dire du black, hein. Et là, bah, quand vous n'avez pas cotisé, vous ne pouvez pas prétendre à. C'est pour ça que le gouvernement a réagi, en tout cas du côté des saisonniers, en donnant une aide de, ouais, 900 euros par mois, pour 4 mois, en tout cas, jusqu'en... Alors, il y a un certain nombre de conditions, hein, on ne va pas les énumérer, mais l'idée, c'est... Et d'ailleurs, c'est une aide qui n'est pas une prime, qui n'est pas une allocation chômage, même si elle est versée par Pôle emploi. C'est presque un revenu universel, temporaire. Ouais. En tout cas, ça va aussi reposer la question de ce sujet qui était porté par Benoît Hamon en 2017.
Mathieu Plane, votre réaction à ce reportage ?
Non, c'est évident que la crise accentue les fractures sociales, on le voit là. Là, vous parliez des emplois saisonniers, je crois que c'est pas loin d'un million d'emplois en France. Il faut savoir qu'il y en a pratiquement deux tiers qui sont dans l'hôtellerie, restauration et les commerces. Souvent, c'est dans des zones touristiques qui vivent que de ça. Donc, géographiquement, on voit aussi des grandes fractures. Et on voit que la question de la pauvreté, elle va être quand même importante parce qu'on a des nouvelles poches de pauvreté. C'est-à-dire on a tous les jeunes, les étudiants, les jobs d'été. On voit aussi les commerçants, les artisans, hein, qui n'étaient pas forcément les plus, qu'on voyait les plus dans la pauvreté. Et donc, ceux-là ne sont pas effectivement couverts par les dispositifs actuels. Ils passent un peu à travers, effectivement, ce que disait Fanny, à travers les trous de la raquette, et parce qu'ils ne vont pas avoir de l'activité partielle, parce qu'ils ne sont pas dans le fonds de solidarité. Donc, on a ça, et en même temps, on maîtrise mal, on connaît assez mal, hein, les dispositifs qu'il faudrait mettre en place pour éviter cette extension de pauvreté. Et puis, maintenant, il y a 2021 aussi, où savoir comment, justement, on va mettre en place des mécanismes qui permettent de mieux cibler. Quelles sont les politiques à mettre en place, notamment chez les jeunes? On voit que c'est extrêmement compliqué, parce que les jeunes, ouais, sont souvent précaires, sont peu d'aide. Et aujourd'hui, le marché de l'emploi est complètement sinistré. Donc, c'est des questions qui sont quand même fondamentales, surtout pour les générations qui arrivent sur le marché du travail.
Et l'Institut Montaigne propose de verser 30 milliards d'euros aux plus modestes. Nous revenons maintenant à vos questions. Je sens qu'un impôt Covid se profile. Pas vous, Bruno Jeudy? Le gouvernement jure que non.
Mais les Français ne sont pas dupes, ils se disent bien que cet argent magique qui est tombé comme ça. Vous savez, là, on sort du débat sur la loi de finances. Tous les politiques disent eux-mêmes, il y a quelques mois encore, on se battait pour 20-30 millions et maintenant, les milliards tombent comme ça. Donc forcément, les Français voient ça et se disent, à un moment ou à un autre, la question de l'impôt va bien falloir payer. Alors, c'est le gouvernement a repoussé la question en créant un groupe de travail parmi lesquels il y a des personnalités imminentes qui vont faire des propositions justement sur ce thème-là. Ça permet de repousser aussi cette question, hein. On voit bien que c'est compliqué d'ouvrir ce débat en amont de la présidentielle. Il s'invitera pendant la présidentielle, mais c'est difficile de l'ouvrir aujourd'hui, même si on a lu ce matin que l'ancien ministre de l'économie, Jean Arthuis, conseillait au gouvernement, sinon de réduire la dette, au moins de la stabiliser. Donc on voit bien que cette question va se poser. Alors après, je ne suis pas un spécialiste, mais on sait, puisqu'en plus c'est Jean Arthuis qui l'avait créé, qu'il y a cette fameuse... il y a tous ces impôts qui sont moins visibles mais qu'on paye, la CRDS, la CSG, qui peut-être à terme serviront à financer en partie cette dette qu'on va mettre de côté, mais qu'il faudra payer à l'horizon peut-être de 2 ou 3 décennies.
Non, on ne la met pas de côté, on la fait rouler, nous a dit Mathieu Plane. Ah, je vous taquine, Mathieu. Allez, comment peut-on annuler une dette? Y a-t-il un processus à suivre ou bien cela peut-il se faire d'un coup de baguette magique?
Je veux bien parler.
Mathieu Plane, allez-y.
Annuler une dette, en général, c'est quand vous êtes en situation de défaut. C'est-à-dire que c'est justement une situation où vous ne pouvez plus faire face à vos échéances. Donc, ce n'est jamais souhaitable d'annuler une dette. C'est pour ça qu'on ne souhaite pas, enfin, personne ne souhaite, je pense, annuler concrètement vraiment la dette. La question, c'est comment on va traiter cette dette plutôt. Et donc, un défaut souverain est une catastrophe pour un pays parce qu'il ne peut plus emprunter après, il ne peut plus se refinancer sur les marchés. Donc, c'est une catastrophe. Donc, à mon avis, il n'est pas question d'annuler la dette. La question est de savoir est-ce que la dette Covid sera traitée comme une dette comme les autres. Ou est-ce qu'elle sera mutualisée? Est-ce qu'en partie, la Banque centrale va utiliser des instruments un peu particuliers? Et qu'est-ce qui restera comme dette souveraine? Et ça, c'est la dette souveraine après, de savoir comment on va la rembourser, sur quel type d'impôt on va le faire. Et ça, ça va être une question qui va être importante. Parce que ça, je le crois, hein, c'est qu'il restera quand même de la dette souveraine et qu'il va falloir le financer.
Mais ce que vous expliquez, c'est que l'heure des comptes se fera davantage au niveau européen?
Alors, l'heure des comptes, d'abord, il va falloir stabiliser la situation. C'est-à-dire, c'est voir quand même sortir de cette crise et après, on fera les comptes. Dette privée, dette publique, hein, parce qu'il y a tous les prêts garantis par l'État qui reposent justement sur le secteur privé et toutes ces entreprises. Mais globalement, on va faire ces comptes au niveau européen et la décision se fera au niveau européen aussi sur la gestion de crise et éviter le double coup, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des plans d'austérité qui remettent l'économie en difficulté alors même qu'elle sortira à peine la tête de l'eau. Donc, ça va être très, très délicat de gérer cette sortie de crise.
Ça, vous êtes d'accord avec ça, Philippe de Sertine ?
Oui, mais attention, hein. Donc là, c'est vrai que nous sommes avec le problème global, comme d'ailleurs tout à l'heure quand on parlait de prélèvement sur les riches. La France, c'est un cas particulier quand même. Hein. C'est un cas où les taux de prélèvement obligatoire sont les plus élevés du monde. Alors d'ailleurs, on a finalement moins d'inégalités que dans le reste du monde. Mais on est déjà, nous, un peu au taquet. Et sur cette question de la dette, et sur le problème de la dette, on a l'Italie, évidemment, qui ne va pas bien. On a l'Espagne qui n'est pas terrible. Et nous, hein, c'est-à-dire, on est les trois grands pays qui posent problème. Entre parenthèses, d'ailleurs, trois pays aussi très affectés par la disparition du tourisme. Hein. Tout ça, c'est du PIB en moins. Donc, on est trois pays qui allons poser problème à l'Europe, incontestablement.
Qui détient la dette en France ?
Ben notamment, alors vous avez des fonds étrangers, donc cela évidemment, ça va être très compliqué de leur dire qu'on ne les rembourse pas, ce que disait Mathieu Plane à l'instant.
Ouais.
La perte de confiance, c'est quelque chose. Vous voyez, la Russie, après avoir fait défaut en 1917, a décidé de rembourser 80 ans après. Parce que les marchés ne voulaient toujours pas lui prêter en disant « Oh là là, on se souvient, vous n'avez pas remboursé une fois ». Donc c'est quelque chose qui est très
compliqué. Il y a les épargnants ?
Et bien sûr, il y a les épargnants, ou plutôt les épargnants qui ne savent pas toujours, on l'a dit tout à l'heure, l'assurance vie, quand vous êtes dans l'assurance vie, en fait, vous détenez de la dette française. Mm-hmm. Donc la France, les gens, on en détient beaucoup de cette dette.
On ne pourrait pas s'en prendre à l'épargne des épargnants français.
Bah, quand vous êtes en train de dire qu'il faut effacer la dette, là, oui, pour le coup, ce serait probablement les premiers auxquels on serait obligé de taper. Hein, donc,
On nous dit souvent que l'épargne...
Je peux juste compléter,
Oui.
Oui, c'est qu'il y a quand même 25% du PIB de dette publique française qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. C'est là la grande particularité. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas que les épargnants ou les investisseurs privés. C'est pour ça qu'elle peut être éventuellement traitée différemment et que ce n'est pas de l'épargne des ménages qui ne serait pas remboursée. Hein.
On nous dit souvent que l'épargne des Français n'est pas menacée. Ben justement, qu'est-ce qui, à ce jour, nous le garantit ?
Non, mais c'est là vraiment, vous voyez, quand si on attaque l'épargne, on attaque la capacité d'investissement. Ouais. Parce que ça veut dire, vous voyez, vous ne croyez plus dans le futur. Attention hein, par rapport à ce qu'on disait, même tout à l'heure, quand on disait l'euro est très fort, non, c'est le dollar qui commence à baisser. Ça, c'est un vrai souci, un vrai problème. C'est-à-dire, quand vous perdez confiance dans l'avenir, qu'est-ce qui se passe ? On n'investit plus. Et on n'investit plus en général. Et ça, on voit bien, les Français, aujourd'hui, leur épargne, ils cherchent d'ailleurs. Hein, vous voyez, ils cherchent à acheter de l'or, acheter de la pierre, qui crée de la bulle, qui fait que c'est comme ça que vous perdez du pouvoir d'achat. Votre épargne perd de la valeur. C'est comme ça que vous payez la crise aussi, hein, d'ailleurs, avec l'augmentation de ces actifs qui valaient moins cher avant. Même le bitcoin au niveau mondial, vous voyez, cette monnaie virtuelle, elle est aujourd'hui à des sommes astronomiques, un bitcoin pour 18 000 dollars, 19 000, alors qu'il valait un dollar pour un bitcoin il y a 8 ans. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des investisseurs aujourd'hui qui disent « je préfère détenir quelque chose comme ça, qui est géré par un algorithme, plutôt que de la vieille monnaie traditionnelle dont je ne sais pas exactement comment elle va évoluer. »
Allez, mais où sont passées les fameuses agences de notation ? C'est vrai qu'on ne les entend plus.
Oui, c'est vrai. Bah, bon. Ça fait partie du monde.
Ça fait partie du nouveau monde.
Allez, elles ont explosé les logiciels.
Elles interviennent. Elles sont en train de.
Mais tout le monde s'en fout.
Oui, bah, tout le monde, enfin pas complètement. Les investisseurs, quand même, les regardent. Hein, parce qu'ils ont besoin de connaître.
Les politiques ne vont-ils pas profiter de cette crise sanitaire pour imposer des réformes qui ne passaient pas jusqu'alors ? Bruno Gelli.
Je crois le contraire, justement. On voit bien qu'Emmanuel Macron a tenté de remettre sur la table, on peut le croire ou pas le croire, en tous les cas, il a tenté de remettre sur la table la réforme des retraites, par exemple, revenir sur une partie de la réforme de l'assurance chômage. Et il s'est heurté à un mur, les syndicats lui ont dit non. Et on voit bien que ce n'est pas le moment et que ces réformes, au fond, si près de la fin du mandat, plus la crise sanitaire, c'est extrêmement compliqué. Et tout ça, Richard Ferrand l'a dit d'ailleurs à la télévision, ça, ce sera pour le prochain quinquennat, s'il y a prochain quinquennat.
L'État se sert-il la ceinture actuellement ?
Actuellement, non, mais c'est aussi une des questions qui va se poser. La réforme de l'État, c'est une façon de stabiliser nos dépenses publiques.
Et pendant ce temps-là, les Chinois vont sur la Lune, Philippe de Sertine ?
Ils ont surtout beaucoup de croissance, donc ils sont intéressants, ils peuvent nous aider à remonter la pente.
Mais en tout cas, la reprise chez eux, elle est là et elle est solide.
Très puissante.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h20. Je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver C'est dans l'air en podcast. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.